know if you happy everything you did think.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 20 février 2025. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. Des troupes du Burundi, alliées de Kinshasa, continuent de se déployer au nord d'Uvira, localité de l'est de la RDC. L'ex-président gambien en exil, Yahya Jammeh, affirme avoir exclu de son parti un député ayant annoncé son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2026. En Somalie, plus de 70 membres du groupe islamiste radical Shebab ont été tués. Les dirigeants européens se réunissent aujourd'hui en visioconférence à la veille de la rencontre entre le président américain Donald Trump et le premier ministre britannique Keir Starmer à Washington. Et dans notre partie magazine, le Sénégal et la rébellion indépendantiste de Casamance ont signé à Bissau un accord important pour la paix définitive dans cette région après plus de 40 ans de conflit.
Cette réconciliation entre les fils et les filles du Sénégal va permettre la mise en œuvre de ce programme de la Casamance. Et c'est donc un atout majeur pour le gouvernement sénégalais.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Des troupes du Burundi, alliées de Kinshasa, continuent de se déployer hier mardi au nord d'Uvira, localité de l'est de la RDC, en ligne de mire du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Le Royaume-Uni a annoncé suspendre le gros de ses aides financières. Londres a également déclaré qu'il prévoyait de coordonner avec ses partenaires sur de potentielles nouvelles sanctions. Le point avec Eric Manilakiza.
Depuis dimanche, nous observons des mouvements des militaires burundais lourdement armés qui prennent la direction de Luvungi, certains par la route venant d'Uvira, d'autres traversant la rivière Rusizi qui longe la frontière entre RDC et Burundi, a expliqué un habitant de Sangé, situé entre Uvira et Luvungi. De nombreux miliciens congolais gouvernementaux Wazalendo, dit les patriotes, les rejoignent à Luvungi, a ajouté cet habitant ayant requis l'anonymat. Les troupes du M23 sont présentes autour de Kamanyola. La ville est calme mais continue de se vider de ses habitants qui craignent une reprise des affrontements, a indiqué sous couvert de l'anonymat un habitant. Lors d'une offensive éclair ces dernières semaines dans l'est de la RDC, les combattants du M23 soutenus par des soldats rwandais, selon des experts de l'ONU, ont pris le contrôle de Goma et Bukavu, chef-lieu des provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, se rapprochant rapidement d'Uvira, à quelques kilomètres de Bujumbura, la capitale du Burundi. Les trois facilitateurs africains nommés par la SADC et l'EAC auront notamment pour objectif un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, l'accès de l'aide humanitaire et la sécurisation de l'aéroport de Goma.
Mahmoud Salah, chef d'un mouvement rebelle soutenant le président déchu du Niger, Mohamed Bazoum, a été arrêté le week-end dernier en Libye, a-t-on appris lundi auprès de l'organisation et de médias locaux, selon le média Air Info. Basé dans le nord du Niger, M. Salah a été arrêté dimanche à son domicile de Gatroun. On sait en Libye, voisine Air Info. Précise que le chef du Front patriotique de libération a été arrêté lors d'un raid mené par des éléments de l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle la partie est de la Libye. L'ex-dirigeant gambien en exil, Yahya Jammeh, a affirmé avoir exclu de son parti un député ayant annoncé son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2026. Il l'a annoncé à travers un message audio parvenu à la presse. Eddy Sango.
Le député Bakary Badjé, 40 ans, est membre d'un groupe de dissidents de l'Alliance pour la réorientation et la construction patriotique, APCR, parti fondé en 1996 par Yahya Jammeh. Il a annoncé le 18 février sa candidature à la prochaine présidentielle gambienne prévue en 2026. L'ancien chef d'État gambien a rendu public l'exclusion du député à partir de la Guinée équatoriale où il vit depuis janvier 2017, forcé de s'exiler sous la pression des États de l'Afrique de l'Ouest à la suite de sa défaite à la présidentielle contre Adama Barrow, réélu fin 2021. M. Jammeh a affirmé fin janvier son intention de répondre à la tête de son parti et de revenir à la tête du pays. Le parlementaire Badjé fait partie des députés ayant soutenu la proposition de loi qui aurait levé l'interdiction en vigueur depuis 2015 de l'excision et des mutilations féminines en Gambie, un texte rejeté mi-juillet 2024 par le Parlement.
En Tunisie, 8 personnes ont été condamnées à mort mardi pour l'assassinat en 2013 de l'élu de gauche Mohamed Brahmi, qui avait choqué le pays, ont rapporté des médias locaux. Ces personnes ont notamment été reconnues coupables d'avoir perpétré un crime visant à changer la nature de l'État et à inciter au désordre sur le territoire tunisien. Selon la même source, 3 d'entre elles ont reçu une condamnation à mort supplémentaire pour homicide volontaire avec préméditation. Une 9e personne en fuite a été condamnée à 5 ans de prison. En Somalie, plus de 70 membres du groupe islamiste radical Shebab ont été tués lors d'une opération de l'armée, annonce le gouvernement. Plusieurs témoignages ont confirmé des combats dans l'état d'Irchabel. Le point avec Jean-Roger Billon.
Plus de 70 militants extrémistes ont été éliminés grâce aux efforts coordonnés de l'armée nationale et de forces locales, a déclaré mardi le ministère somalien de l'information, précisant que ces opérations proactives ont eu lieu dans plusieurs localisations en Irchabel. Liés à Al-Qaïda, les Shebab combattent depuis plus de 15 ans le gouvernement fédéral de la Somalie, soutenu par la communauté internationale, pour instaurer la loi islamique dans ce pays. En plus de pertes significatives parmi les militants, une grande cache d'armes a été saisie et plusieurs véhicules de combat utilisés par les extrémistes ont été détruits, selon Mogadiscio. Les hommes armés de Shebab ont été battus, a dit un résident, précisant que des dizaines de corps étaient visibles dans les zones de combat. L'opération de l'armée intervenait en réponse à des attaques Shebab dans ces zones ces 2 derniers jours. Les Shebab ont perpétré par le passé de nombreux attentats à la bombe et autres attaques à Mogadiscio et dans plusieurs régions de ce pays instable de la Corne de l'Afrique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chambre américaine des représentants a adopté mardi une résolution qui établit une feuille de route budgétaire pour mettre en place les mesures phares de Donald Trump malgré des dissensions au sein du camp républicain. Cette résolution ouvre la voie à l'adoption ultérieure d'une loi budgétaire pour l'année 2025 qui comprendrait jusqu'à 4 500 milliards de dollars de réduction d'impôts et 2 000 milliards de dollars de baisse des dépenses publiques fédérales sur les 10 prochaines années. Les dirigeants européens se réunissent aujourd'hui en visioconférence à la veille de la rencontre centrée sur l'Ukraine entre le président américain Donald Trump et le premier ministre britannique Keir Starmer à Washington. Jacques Aristide.
Devant la Chambre des communes hier, le travailliste Keir Starmer a déclaré que son gouvernement porterait le budget de la défense à 2,5% du PIB en 2027 contre 2,3% actuellement, une hausse inédite depuis la fin de la guerre froide. L'annonce surprise du dirigeant britannique intervient avant son tête-à-tête prévu demain à la Maison-Blanche avec le président Donald Trump pour parler de l'Ukraine. Après le français Emmanuel Macron dit. Depuis son retour au pouvoir, le chef de l'exécutif américain a encore renforcé ses pressions sur les Européens pour qu'ils contribuent davantage à l'OTAN. Le Royaume-Uni et la France travaillent à un plan de déploiement d'une force européenne en Ukraine, une fois un accord de paix conclu, afin, disent-ils, de dissuader la Russie d'une nouvelle attaque. Londres et Paris cherchent en contrepartie de solides garanties de sécurité américaine. Le président Trump a affirmé que son homologue russe Vladimir Poutine accepterait ce scénario. Le Kremlin a salué hier la position beaucoup plus équilibrée des États-Unis, tout en ajoutant ne pas voir de signe d'équilibre chez les Européens. Une nouvelle rencontre entre diplomates russes et américains est prévue pour la fin de la semaine, selon Moscou, après celle du 18 février en Arabie Saoudite des ministres des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et Marco Rubio.
Par ailleurs, Kiev a accepté les termes d'un accord sur les essais minerais avec les États-Unis que le président Volodymyr Zelensky pourrait signer dès vendredi à Washington, tandis que les Européens se réunissent mercredi en visioconférence pour faire un point en vue d'une possible trêve dans le conflit en Ukraine. L'administration Trump a annoncé mardi qu'elle choisirait elle-même les quelques journalistes admis au plus près du président américain, rompant avec un système établi depuis des décennies et géré par les médias eux-mêmes à travers l'association des correspondants à la Maison-Blanche. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Le Rwanda a nommé Soraya Akuziyaremye au poste de gouverneur de sa banque centrale, a déclaré le bureau du Premier ministre mardi. Jusqu'à l'annonce de mardi, Madame Akuziyaremye était vice-gouverneur de la banque. Elle remplace le précédent gouverneur, John Ruangombwa. Le Botswana signe un accord bien plus favorable avec Debiz. L'accord de vente pour 10 ans assorti d'une option de 5 années supplémentaires prévoit que la société étatique Okavango Diamond Company vendra 30% et Debiz 70% de la production du pays lors des 5 premières années. Précédemment, le partage était à 25%, 75% depuis 2020 et de 10%, 90% encore auparavant. Le nouvel accord signé mardi fera porter la part du Botswana à 40% les 5 années suivantes et même à 50% en cas de prolongation de 5 ans. Une réunion des ministres européens est prévue demain jeudi à Paris pour discuter des droits de douane sur l'acier. La sidérurgie, qui emploie plus de 300 000 personnes en Europe, s'inquiète d'une hausse de 25% des droits de douane décrétés mi-février aux États-Unis et qui doit entrer en vigueur le 12 mars. L'Union européenne pourrait perdre jusqu'à 3,7 millions de tonnes d'exportation d'acier vers les États-Unis, son deuxième plus grand marché d'exportation.
Place maintenant sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
Fin hier des matchs retour du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026.
Grâce à sa victoire 6-0 au match aller, le Mali n'avait plus grand-chose à faire face au Gabon. Les Maliennes ont encore pulvérisé les Gabonaises 4-1 pour voir le tour prochain. Deux buts partout entre l'Égypte et le Rwanda, mais les Égyptiennes passent au tour suivant grâce à leur victoire 1-0 à l'aller. L'Algérie, elle, n'a pas fait dans la dentelle, dominant le Soudan du Sud 3-0 après sa victoire 5-0 à l'aller. Lundi, la Gambie et le Bénin ont passé ce premier tour. Les Gambiennes, qui avaient battu les Nigériens 2-0 à l'aller, ont remis ça cette fois-ci 2-1 face aux Nigériennes. Les Béninoises ont, elles aussi, fait mieux que sauvegarder leur avance de 2-1 au match aller face à la Sierra Leone, encore battu 3-1.
En Angleterre, Pep Guardiola dit avoir connu plus grand défi que la crise actuelle de Manchester City.
L'entraîneur de Manchester City et de l'Égyptien Omar Marmoush a affirmé que relancer la saison des Citizens, éliminés de la Ligue des Champions et à la lutte en championnat, n'était pas le plus grand défi de sa carrière. Le véritable défi, c'était lorsque je commençais ma carrière d'entraîneur avec mon staff et de nombreux membres du personnel. Nous avons travaillé ensemble pour prouver notre valeur et démontrer que nous pouvions réussir, a ajouté l'ex-entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich. City, qui occupe actuellement la 4e place de Premier League, qualificative pour la Ligue des Champions, se déplace à Londres aujourd'hui pour affronter Tottenham. Les Sky Blues, qui ont remporté 6 des 7 derniers titres de champion d'Angleterre, accusent 20 points de retard sur le leader Liverpool après leur défaite 2-0 dimanche face à l'équipe de l'autre Égyptien, Mohamed Salah. Star de l'équipe, l'avant-centre norvégien Erling Haaland reste incertain pour le match à Londres, après avoir manqué les deux dernières rencontres en raison d'une blessure au genou.
Basketball, l'état de santé de Joel Embiid suscite des interrogations.
Les espoirs nés du trio Joel Embiid, Tyrese Maxey, Paul George ont fait long feu et la situation au classement est grave. 12e à l'Est pour les Philadelphia Sixers. Plusieurs médias américains ont indiqué que Philadelphie étudiait l'option d'une nouvelle et lourde opération pour tenter de soigner le genou gauche qui fait toujours souffrir Embiid, laissé en tribune lundi lorsque les Sixers ont perdu pour la 8e fois d'affilée, humilié à domicile par Chicago 142-110, de quoi être hué à plusieurs reprises par leurs fans. Interrogé sur une possible fin de saison pour le pivot camerounais MVP en 2023, « Nous n'en sommes pas du tout là », a rétorqué son entraîneur Nick Nurse.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Sénégal et la rébellion indépendantiste de Casamance ont signé à Bissau un accord important pour la paix définitive dans cette région après plus de 40 ans de conflit. L'accord prévoit la démobilisation des rebelles et leur réinsertion. Il fait suite à plusieurs tentatives de pacification. Pour une analyse, Eric Manilakiza a parlé à Ibrahima Kane, analyste et chargé de programme Open Society Initiative pour l'Afrique de l'Ouest.
Mais l'impact est fondamental parce que vous vous rappelez que le président Diomaye, quand il est venu au pouvoir, l'un des plans qu'il avait proposé, c'était un plan pour la Casamance. Cette réconciliation entre les fils et les filles du Sénégal va permettre la mise en œuvre de ce programme de la Casamance. Et c'est donc un atout majeur pour le gouvernement sénégalais qui entend consacrer une partie de ses efforts pour réconcilier les Sénégalais. Et donc... La signature de cette convention à Bissau, c'est un pas important vers la pacification totale de la Casamance.
En quoi cet accord diffère-t-il des initiatives de paix précédentes?
Alors, c'est d'abord le rôle que certains facilitateurs ont joué. Ces facilitateurs sont considérés comme des gens sérieux, surtout l'Église italienne en particulier, qui a joué depuis le début un rôle important là-dedans. Et les voisins du Sénégal, la Guinée-Bissau, est un acteur important comme la Gambie. Et donc, si l'accord est signé à Bissau, sous la présidence du président bissau-guinéen, ça veut dire que l'engagement du Sénégal est fort et l'engagement de la partie qui pratiquement assure le respect de ces accords-là est aussi très fort, parce que c'est le président bissau-guinéen qui a signé. Et ça donne beaucoup de force à l'acte qui est posé par les belligérants.
Selon vous, cet accord a-t-il de bonnes chances de tenir à long terme comparé à ceux signés dans le passé? Je parle du contenu.
Tout à fait. Il y a juste un élément du contenu qui, jusqu'à présent, n'a pas été vraiment accepté de part et d'autre. C'est la question de la grâce présidentielle et c'est de la question de l'amnistie. Vous savez, au Sénégal, actuellement, pour les raisons liées à l'expérience politique récente, amnistier est devenu une chose que les gens ne veulent pas entendre parler parce que c'est essayer de donner une sorte de prime aux criminels et autres. Et dans cette situation de la Casamance, il faut bien que les gens se pardonnent. Il faut bien que les gens acceptent de mettre de tourner la page des crimes du passé et d'aller de l'avant. Et donc, tant que ce texte-là ne sera pas adopté, il n'y aura pas véritablement de paix. Les gens pensent également que la grâce présidentielle peut aider à résoudre la situation de certains Casamançais qui sont actuellement en prison pour des crimes graves qui ont été commis. Là également, on attend de voir, le 4 avril n'est pas loin, donc le président pourrait éventuellement profiter de cette occasion pour gracier. Mais sur la question de l'amnistie, je pense que ça va encore poser de sérieux problèmes.
Ibrahima Kane, analyste et chargé de programme Open Society Initiative pour l'Afrique de l'Ouest.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Les pays d'Afrique australe et de l'Est ont nommé trois anciens dirigeants du Kenya, de l'Éthiopie et du Nigeria pour être les facilitateurs d'un processus de paix en RDC où le procureur de la Cour pénale internationale est arrivé la nuit dernière. Les détails avec Jacques Aristide.
Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, et Haile Mariam Desalegn, ancien premier ministre d'Éthiopie, sont nommés facilitateurs du processus de paix de la communauté d'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe dans la région orientale de la RDC, écrivent les deux blocs dans un communiqué conjoint publié lundi soir. Les trois facilitateurs africains auront notamment pour objectif un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, l'accès de l'aide humanitaire et la sécurisation de l'aéroport de Goma, la grande ville de l'Est congolais. Dans la nuit de lundi à mardi, le procureur de la CPI, Karim Khan, est arrivé dans la capitale congolaise, Kinshasa.
Bien sûr, comme tout le monde, nous sommes extrêmement inquiets des récents développements au Congo. C'est le moment où nous verrons si le droit pénal international peut supporter les exigences des populations de la République démocratique du Congo.
Ces dernières semaines, le groupe armé M23 et ses alliés rwandais ont pris le contrôle de Goma et Bukavu, les chefs-lieux des provinces du Nord et Sud Kivu. Les combats ont fait des milliers de morts, selon l'ONU, alors que la situation humanitaire continue de se dégrader.
Nous n'avons pas assez de ressources, financières pour apporter tout l'appui. Il y a des défis que nous pouvons considérer comme la prise en charge pour la continuité des soins, mais aussi l'identification, la recherche et la récupération des malades, surtout infectieux, comme ceux qui étaient atteints d'impox, de rougeole ou de choléra, qui se sont retrouvés dans la communauté. Donc la recherche de ces cas, c'est aussi un défi en ce moment ici.
De son côté, Pretoria indique ce mardi que des soldats sud-africains gravement blessés ont été évacués de Goma, où 14 de ses militaires ont été tués depuis le début de l'année dans l'avancée du M23 et de troupes du Rwanda.
Au Togo, le hacking éthique, encore appelé le test d'intrusion légale, émerge comme une solution indispensable pour contrer la cybercriminalité. Contrairement aux cybercriminels, cette catégorie de hackers utilise leurs compétences pour détecter les failles de sécurité et protéger les systèmes informatiques. On les compte encore sur le bout des doigts, mais leur rôle est déterminant pour garantir la pérennité et la réputation des entreprises à long terme. Reportage de notre correspondante Amen Assignon à Lomé.
Hacker au parcours atypique, Boaz Kodjo est un autodidacte qui s'est pris de passion pour les technologies. Il est trop technicien à la base, il s'est reconverti et porte aujourd'hui la casquette de spécialiste en sécurité des applications et testeur d'intrusion ou hacker éthique. Son rôle est de tester les systèmes informatiques afin de déceler les éventuelles failles sécuritaires avant que des criminels ne les exploitent et ensuite faire des recommandations. Pour nous montrer de quoi il s'agit, Boaz a tenté d'infiltrer un système informatique. Ce dernier a révélé des failles sécuritaires vulnérables avec des informations sensibles mises à nu que les cybercriminels peuvent facilement exploiter à des fins de vol d'identité.
Tout le serveur est à ma merci, je peux uploader des fichiers également dessus.
Contrairement aux hackers malveillants, les hackers éthiques agissent avec l'autorisation des entreprises. Ils utilisent les mêmes techniques que les cybercriminels, mais dans un cadre légal.
Actuellement, c'est beaucoup plus les attaques par ransomware qui sont en train de monter en flèche depuis des années. Et avec l'avènement de l'IA, les attaques par phishing.
Au Togo, l'usage de l'Internet et de la digitalisation des entreprises connaît une croissance rapide. Toutefois, cette transition vers le numérique s'accompagne de nouveaux risques. L'augmentation des transactions en ligne, la gestion des informations sensibles, l'usage massif des services cloud rendent les entreprises vulnérables aux cyberattaques.
Il ne suffit pas d'utiliser les données des gens, mais il faut forcément les protéger. Et les risques qu'ils peuvent encourir quand vous êtes face à une violation, c'est qu'il y a des risques financiers qui vont intervenir, il y a des risques réputationnels qui vont intervenir, et il y a des risques juridiques aussi aujourd'hui, tant que vous êtes sur un territoire qui est assez réglementé.
Conscient des enjeux liés à la cybersécurité, le gouvernement togolais a mis en place un cadre réglementaire et un certain nombre de dispositifs pour protéger les infrastructures essentielles, en l'occurrence l'Agence nationale de la cybersécurité, le Centre national de gestion des incidents, l'organe opérationnel CDA Cyber Défense Africa. Ce dernier promeut entre autres la formation des jeunes aux nouvelles compétences comme le hacking éthique, une compétence peu répandue.
On parle de la digitalisation, donc il y a plusieurs produits, il y a plusieurs services qui se digitalisent. Donc il faut qu'il y ait des compétences pour pouvoir tester la robustesse de ces différents équipements ou infrastructures informatiques. Et de l'autre côté également, ça permet d'être prêt aux nouveaux challenges de l'avenir. Aujourd'hui, vous savez, on parle de l'IA.
Bien qu'encore sous-exploité au Togo, le hacking éthique intervient comme une pratique efficace pour anticiper les menaces et renforcer la sécurité des systèmes d'information. Un impératif pour les entreprises qui minimisent la portée de la cybersécurité. Amina Signon pour VOA Afrique, Lomé.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Le pape François, 88 ans, hospitalisé dans un état critique avec une double pneumonie, a signé un décret de canonisation. Le Vatican assure ce matin que le pape s'est bien reposé toute la nuit au 12e jour de son hospitalisation après avoir fait état hier d'une légère amélioration. Des nouvelles rassurantes alors que l'état de santé du pontife argentin suscite l'inquiétude à travers le monde. Des prières sont organisées partout pour son rétablissement. Yacouba Ouedraogo fait le point.
Devant l'hôpital de Gemelli à Rome, où le pape François est hospitalisé avec une double pneumonie, des membres de la communauté vietnamienne prient pour lui. Sur la place Saint-Pierre, des centaines d'autres personnes participent à une prière pour la santé du pape François, ainsi que pour les malades, dirigée par le secrétaire d'État et numéro 2 du Vatican, le cardinal italien Pietro Parolin.
Nous le confions à la puissante intercession de la très sainte Vierge Marie que nous invoquons spécialement sous le titre de Marie, santé des malades. Qu'elle, notre mère attentive, le soutienne en ce moment de maladie et d'épreuve et l'aide à recouvrer rapidement la santé.
À des milliers de kilomètres du Vatican, des centaines d'Argentins ont assisté lundi à une messe à ciel ouvert à Buenos Aires, dédié à leur compatriote, le pape François. Les fidèles se sont rassemblés sur la place de la capitale où, lorsqu'il était archevêque, le pape François présidait les célébrations en dénonçant inégalité et injustice.
C'est son symbole. C'est ici, sur la place de la Constitution, qu'il a toujours célébré la messe. Et ici, il y a plus de gens qui vivent dans la rue et c'est ici qu'il a toujours célébré la messe. Je pense que c'est l'endroit idéal pour célébrer une messe en son honneur et pour prier pour sa santé.
Brandissant des drapeaux argentins et des pancartes souhaitant un prompt rétablissement à Jorge Bergoglio, ces fidèles argentins ont prié, participé à l'Eucharistie et scandé « Viva el Papa Francisco, vive le Papa François » sous la direction de l'archevêque de Buenos Aires, José Ignacio García Cuerva. En Afrique, des prières se multiplient pour la guérison du pape François, comme ici au Kenya. Les fidèles ont assisté à un service spécial à la basilique de la Sainte Famille de Nairobi, où ils ont prié pour le bien-être du souverain pontife.
Maintenant que le pape est malade et avec toutes les nouvelles que nous recevons sur sa santé, nous remercions Dieu qu'au moins malgré tout cela, il soit dans des cœurs sûrs, qu'il soit à l'hôpital et surtout qu'il soit dans les cœurs sûrs de Dieu. Ma prière est qu'il se rétablisse. Ayant été berger pendant toutes ces années, il a beaucoup à nous apporter.
Le pape François avait été initialement hospitalisé le 14 février pour une bronchite, mais celle-ci a évolué en pneumonie. Le Vatican a annoncé qu'il a reçu lundi la visite de son secrétaire d'État, le cardinal italien Pietro Parolin, et de Mgr Edgar Pinapara, respectivement numéro 2 et numéro 3 du Saint-Siège. Au cours de cette visite, la première depuis son admission à l'hôpital, le pape a autorisé la canonisation de deux laïcs du Venezuela et d'Italie et convoqué une assemblée des cardinaux dont la date n'a pas été précisée.
Dans Washington Forum cette semaine, les discussions entre l'Europe et les États-Unis pour mettre fin à la guerre en Ukraine à l'occasion du 3e anniversaire de l'invasion. Le président Donald Trump a exprimé l'espoir que la guerre touche à sa fin lors de sa rencontre lundi avec le président français Emmanuel Macron.
Parallèlement, Washington espère un accord qui lui donnerait l'accès aux minerais ukrainiens en échange d'une protection. Que vous évoquent les divergences entre les approches européennes et américaines concernant l'issue du conflit? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Alessandrine Follognon et ses invités sur VOA Afrique et voaafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de la rédaction et la production. Au micro, vous étiez avec Rosine Munezero, à la mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 20 février 2025. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. Des troupes du Burundi, alliées de Kinshasa, continuent de se déployer au nord d'Uvira, localité de l'est de la RDC. L'ex-président gambien en exil, Yahya Jammeh, affirme avoir exclu de son parti un député ayant annoncé son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2026. En Somalie, plus de 70 membres du groupe islamiste radical Shebab ont été tués. Les dirigeants européens se réunissent aujourd'hui en visioconférence à la veille de la rencontre entre le président américain Donald Trump et le premier ministre britannique Keir Starmer à Washington. Et dans notre partie magazine, le Sénégal et la rébellion indépendantiste de Casamance ont signé à Bissau un accord important pour la paix définitive dans cette région après plus de 40 ans de conflit.
Cette réconciliation entre les fils et les filles du Sénégal va permettre la mise en œuvre de ce programme de la Casamance. Et c'est donc un atout majeur pour le gouvernement sénégalais.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les troupes du Burundi, alliées de Kinshasa, continuent de se déployer hier mardi au nord d'Uvira, localité de l'est de la RDC, en ligne de mire du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Le Royaume-Uni a annoncé suspendre le gros de ses aides financières. Londres a également déclaré qu'il prévoyait de coordonner avec ses partenaires sur de potentielles nouvelles sanctions. Le point avec Eric Manilakiza.
Depuis dimanche, nous observons des mouvements des militaires burundais lourdement armés qui prennent la direction de Luvungi, certains par la route venant d'Uvira, d'autres traversant la rivière Rusizi qui longe la frontière entre RDC et Burundi, a expliqué un habitant de Sangé, situé entre Uvira et Luvungi. De nombreux miliciens congolais gouvernementaux Wazalendo, dit les patriotes, les rejoignent à Luvungi, a ajouté cet habitant ayant requis l'anonymat. Les troupes du M23 sont présentes autour de Kamagnola. La ville est calme mais continue de se vider de ses habitants qui craignent une reprise des affrontements, a indiqué sous couvert de l'anonymat un habitant. Lors d'une offensive éclair ces dernières semaines dans l'est de la RDC, les combattants du M23 soutenus par des soldats rwandais, selon des experts de l'ONU, ont pris le contrôle de Goma et Bukavu, chef-lieu des provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, se rapprochant rapidement d'Uvira, à quelques kilomètres de Bujumbura, la capitale du Burundi. Les trois facilitateurs africains nommés par la SADC et l'EAC auront notamment pour objectif un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, l'accès de l'aide humanitaire et la sécurisation de l'aéroport de Goma.
Mahmoud Salah, chef d'un mouvement rebelle soutenant le président déchu du Niger, Mohamed Bazoum, a été arrêté le week-end dernier en Libye, a-t-on appris lundi auprès de l'organisation et de médias locaux, selon le média Air Info. Basé dans le nord du Niger, M. Salah a été arrêté dimanche à son domicile de Gatroun. On sait en Libye, voisine Air Info. Précise que le chef du Front patriotique de libération a été arrêté lors d'un raid mené par des éléments de l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar,
qui contrôle la partie est de la Libye. L'ex-dirigeant gambien en exil, Yahya Jammeh, a affirmé avoir exclu de son parti un député ayant annoncé son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2026. Il l'a annoncé à travers un message audio parvenu à la presse. Eddy Issango.
Le député Bakary Badji, 40 ans, est membre d'un groupe de dissidents de l'Alliance pour la réorientation et la construction patriotique, APCR, parti fondé en 1996 par Yahya Jammeh. Il a annoncé le 18 février sa candidature à la prochaine présidentielle gambienne, prévu en 2026. L'ancien chef d'État gambien a rendu public l'exclusion du député à partir de la Guinée équatoriale où il vit depuis janvier 2017, forcé de s'exiler sous la pression des États de l'Afrique de l'Ouest à la suite de sa défaite à la présidentielle contre Adama Barrow, réélu fin 2021. M. Jammeh a affirmé fin janvier son intention de reprendre la tête de son parti et de revenir à la tête du pays. Le Parlement Badji fait partie des députés ayant soutenu la proposition de loi qui aurait levé l'interdiction en vigueur depuis 2015 de l'excision et des mutilations féminines en Gambie, un texte rejeté mi-juillet 2024 par le Parlement.
En Tunisie, 8 personnes ont été condamnées à mort mardi pour l'assassinat en 2013 de l'élu de gauche Mohamed Brahmi, qui avait choqué le pays, ont rapporté des médias locaux. Ces personnes ont notamment été reconnues coupables d'avoir perpétré un crime visant à changer la nature de l'État et à inciter au désordre sur le territoire tunisien. Selon la même source, 3 d'entre elles ont reçu une condamnation à mort supplémentaire pour homicide volontaire avec préméditation. Une 9e personne en fuite a été condamnée à 5 ans de prison. En Somalie, plus de 70 membres du groupe islamiste radical Shebab ont été tués lors d'une opération de l'armée, annonce le gouvernement. Plusieurs témoignages ont confirmé des combats dans l'état d'Irchabel. Le point avec Jean-Roger Billon.
Plus de 70 militants extrémistes ont été éliminés grâce aux efforts coordonnés de l'armée nationale et de forces locales, a déclaré mardi le ministère somalien de l'information, précisant que ces opérations proactives ont eu lieu dans plusieurs localisations en Irchabel. Liés à Al-Qaïda, les Shebab combattent depuis plus de 15 ans le gouvernement fédéral de la Somalie, soutenu par la communauté internationale, pour instaurer la loi islamique dans ce pays. En plus de pertes significatives parmi les militants, une grande cache d'armes a été saisie et plusieurs véhicules de combat utilisés par les extrémistes ont été détruits, selon Mogadiscio. Les hommes armés de Shebab ont été battus, a dit un résident, précisant que des dizaines de corps étaient visibles dans les zones de combat. L'opération de l'armée intervenait en réponse à des attaques Shebab dans ces zones ces 2 derniers jours. Les Shebab ont perpétré par le passé de nombreux attentats à la bombe et autres attaques à Mogadiscio et dans plusieurs régions de ce pays instable de la Corne de l'Afrique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chambre américaine des représentants a adopté mardi une résolution qui établit une feuille de route budgétaire pour mettre en place les mesures phares de Donald Trump malgré des dissensions au sein du camp républicain. Cette résolution ouvre la voie à l'adoption ultérieure d'une loi budgétaire pour l'année 2025 qui comprendrait jusqu'à 4 500 milliards de dollars de réduction d'impôts et 2 000 milliards de dollars de baisse des dépenses publiques fédérales sur les 10 prochaines années. Les dirigeants européens se réunissent aujourd'hui en visioconférence à la veille de la rencontre centrée sur l'Ukraine entre le président américain Donald Trump et le premier ministre britannique Keir Starmer à Washington. Jacques Aristide.
Devant la Chambre des communes hier, le travailliste Keir Starmer a déclaré que son gouvernement porterait le budget de la défense à 2,5% du PIB en 2027 contre 2,3% actuellement, une hausse inédite depuis la fin de la guerre froide. L'annonce surprise du dirigeant britannique intervient avant son tête-à-tête prévu demain à la Maison-Blanche avec le président Donald Trump pour parler de l'Ukraine. Après le français Emmanuel Macron,
lundi. Depuis son retour au pouvoir, le chef de l'exécutif américain a encore renforcé ses pressions sur les Européens pour qu'ils contribuent davantage à l'OTAN. Le Royaume-Uni et la France travaillent à un plan de déploiement d'une force européenne en Ukraine, une fois un accord de paix conclu, afin, disent-ils, de dissuader la Russie d'une nouvelle attaque. Londres et Paris cherchent en contrepartie de solides garanties de sécurité américaine. Le président Trump a affirmé que son homologue russe Vladimir Poutine accepterait ce scénario. Le Kremlin a salué hier la position beaucoup plus équilibrée des États-Unis, tout en ajoutant ne pas voir de signe d'équilibre chez les Européens. Une nouvelle rencontre entre diplomates russes et américains est prévue pour la fin de la semaine, selon Moscou, après celle du 18 février en Arabie Saoudite des ministres des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et Marco Rubio.
Par ailleurs, Kiev a accepté les termes d'un accord sur les minerais avec les États-Unis que le président Volodymyr Zelensky pourrait signer dès vendredi à Washington, tandis que les Européens se réunissent mercredi en visioconférence pour faire un point en vue d'une possible trêve dans le conflit en Ukraine. L'administration Trump a annoncé mardi qu'elle choisirait elle-même les quelques journalistes admis au plus près du président américain, rompant avec un système établi depuis des décennies et géré par les médias eux-mêmes à travers l'association des correspondants à la Maison-Blanche. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Le Rwanda a nommé Soraya Kuziyaremye au poste de gouverneur de sa banque centrale, a déclaré le bureau du Premier ministre mardi. Jusqu'à l'annonce de mardi, Mme Akuziyaremye était vice-gouverneure de la banque. Elle remplace le précédent gouverneur, John Ruangombwa. Le Botswana signe un accord bien plus favorable avec Debise. L'accord de vente pour 10 ans, assorti d'une option de 5 années supplémentaires, prévoit que la société étatique Okavango Diamond Company vendra 30% et Debise 70% de la production du pays lors des 5 premières années. Précédemment, le partage était à 25%, 75% depuis 2020 et de 10%, 90% encore auparavant. Le nouvel accord signé mardi fera porter la part du Botswana à 40% les 5 années suivantes et même à 50% en cas de prolongation de 5 ans. Une réunion des ministres européens est prévue demain jeudi à Paris pour discuter des droits de douane sur l'acier. La sidérurgie, qui emploie plus de 300 000 personnes en Europe, s'inquiète d'une hausse de 25% des droits de douane décrétés mi-février aux États-Unis et qui doit entrer en vigueur le 12 mars. L'Union européenne pourrait perdre jusqu'à 3,7 millions de tonnes d'exportation d'acier vers les États-Unis, son deuxième plus grand marché d'exportation.
Place maintenant sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
Fin hier des matchs retour du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026.
Grâce à sa victoire 6-0 au match aller, le Mali n'avait plus grand chose à faire face au Gabon. Les Maliennes ont encore pulvérisé les Gabonaises 4-1 pour voir le tour prochain. Deux buts partout entre l'Égypte et le Rwanda, mais les Égyptiennes passent au tour suivant grâce à leur victoire 1-0 à l'aller. L'Algérie, elle, n'a pas fait dans la dentelle, dominant le Soudan du Sud 3-0 après sa victoire 5-0 à l'aller. Lundi, la Gambie et le Bénin ont passé ce premier tour. Les Gambiennes, qui avaient battu les Nigériens 2-0 à l'aller, ont remis à cette fois-ci 2-1 face aux Nigériennes. Les Béninoises ont, elles aussi, fait mieux que sauvegarder leur avance de 2-1 au match aller face à la Sierra Leone, encore battu 3-1.
En Angleterre, Pep Guardiola dit avoir eu plein défis que la...
a affirmé que relancer la saison des Citizens, éliminée de la Ligue des Champions et à la lutte en championnat, n'était pas le plus grand défi de sa carrière. Le véritable défi, c'était lorsque je commençais ma carrière d'entraîneur avec mon staff et de nombreux membres du personnel. Nous avons travaillé ensemble pour prouver notre valeur et démontrer que nous pouvions réussir, a ajouté l'ex-entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich. City, qui occupe actuellement la 4e place de Premier League, qualificative pour la Ligue des Champions, se déplace à Londres aujourd'hui pour affronter Tottenham. Les Sky Blues, qui ont remporté 6 des 7 derniers titres de champion d'Angleterre, accusent 20 points de retard sur le leader Liverpool, après leur défaite 2-0 dimanche face à l'équipe de l'autre Égyptien, Mohamed Salah. Star de l'équipe, l'avant-centre norvégien Erling Haaland reste incertain pour le match à Londres après avoir manqué les deux dernières rencontres en raison d'une blessure au genou.
Basketball, l'état de santé de Joel Embiid suscite des interrogations.
Les espoirs nés du trio Joel Embiid, Tyrese Maxey, Paul George ont fait long feu et la situation au classement est grave. 12e à l'est pour les Philadelphia Sixers. Plusieurs médias américains ont indiqué que Philadelphie étudiait l'option d'une nouvelle et lourde opération pour tenter de soigner le genou gauche qui fait toujours souffrir Embiid. Laissé en tribune lundi lorsque les Sixers ont perdu pour la 8e fois d'affilée, humilié à domicile par Chicago 142-110, de quoi être hué à plusieurs reprises par leurs fans. Interrogé sur une possible fin de saison pour le pivot camerounais MVP en 2023, « Nous n'en sommes pas du tout là », a rétorqué son entraîneur Nick Nurse.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Mounezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Sénégal et la rébellion indépendantiste de Casamance ont signé à Bissau un accord important pour la paix définitive dans cette région après plus de 40 ans de conflit. L'accord prévoit la démobilisation des rebelles et leur réinsertion. Il fait suite à plusieurs tentatives de pacification. Pour une analyse, Eric Manilakiza a parlé à Ibrahima Kane, analyste et chargé de programme Open Society Initiative pour l'Afrique de l'Ouest.
Mais l'impact est fondamental parce que vous vous rappelez que le président Diomaye, quand il est venu au pouvoir, l'une des plans qu'il avait proposé, c'était un plan pour la Casamance. Cette réconciliation entre les fils et les filles du Sénégal va permettre la mise en œuvre de ce programme de la Casamance et c'est donc un atout majeur pour le gouvernement sénégalais qui entend consacrer une partie de ses efforts pour réconcilier les Sénégalais. Et donc, la signature de cette convention à Bissau, c'est un pas important vers la pacification totale de la Casamance.
En quoi cet accord diffère-t-il des initiatives de paix précédentes?
Alors, c'est d'abord le rôle que certains facilitateurs ont joué. Ces facilitateurs sont considérés comme des gens sérieux, surtout l'Église italienne en particulier, qui a joué depuis le début un rôle important là-dedans. Et les voisins du Sénégal, la Guinée-Bissau, est un acteur important comme la Gambie. Et donc, si l'accord est signé à Bissau, sous la présidence du président Bissau-Guinéen, ça veut dire que l'engagement du Sénégal est fort et l'engagement de la partie qui pratiquement assure le respect de ces accords-là est aussi très fort parce que c'est le président Bissau-Guinéen qui a signé. Et ça donne beaucoup de force à l'acte qui est posé par les belligérants.
Selon vous, cet accord a-t-il de bonnes chances de tenir à long terme comparé à ceux signés dans le passé? Je parle du contenu.
Tout à fait. Il y a juste un élément du contenu qui, jusqu'à présent, n'a pas été vraiment accepté de part et d'autre. C'est la question de la grâce présidentielle et c'est de la question de l'amnistie. Vous savez, au Sénégal, actuellement, pour les raisons liées à l'expérience politique récente, amnistier est devenu une chose que les gens ne veulent pas entendre parler parce que c'est essayer de donner une sorte de prime aux criminels et autres. Et dans cette situation de la Casamance, il faut bien que les gens se pardonnent. Il faut bien que les gens acceptent de mettre de tourner la page des crimes du passé et d'aller de l'avant. Et donc, tant que ce texte-là ne sera pas adopté, il n'y aura pas véritablement de paix. Les gens pensent également que la grâce présidentielle peut aider à résoudre la situation de certains Casamançais qui sont actuellement en prison pour des crimes graves qui ont été commis. Là également, on attend de voir, le 4 avril n'est pas loin, donc le président pourrait éventuellement profiter de cette occasion pour gracier. Mais sur la question de l'amnistie, je pense que ça va encore poser de sérieux problèmes.
Ibrahima Kane, analyste et chargé de programme Open Society Initiative pour l'Afrique de l'Ouest.
102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Les pays d'Afrique australe et de l'Est ont nommé 3 anciens dirigeants du Kenya, de l'Éthiopie et du Nigeria pour être les facilitateurs d'un processus de paix en RDC où le procureur de la Cour pénale internationale est arrivé la nuit dernière. Les détails avec Jacques Aristide.
Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, et Haile Mariam Desalegn, ancien premier ministre d'Éthiopie, sont nommés facilitateurs du processus de paix de la communauté d'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe dans la région orientale de la RDC, écrivent les deux blocs dans un communiqué conjoint publié lundi soir. Les 3 facilitateurs africains auront notamment pour objectif un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, l'accès de l'aide humanitaire et la sécurisation de l'aéroport de Goma, la grande ville de l'Est congolais. Dans la nuit de lundi à mardi, le procureur de la CPI, Karim Khan, est arrivé dans la capitale congolaise, Kinshasa.
Bien sûr, comme tout le monde, nous sommes extrêmement inquiets des récents développements au Congo. C'est le moment où nous verrons si le droit pénal international peut supporter les exigences des populations de la République démocratique du Congo.
Ces dernières semaines, le groupe armé M23 et ses alliés rwandais ont pris le contrôle de Goma et Bukavu, les chefs-lieux des provinces du Nord et Sud Kivu. Les combats ont fait des milliers de morts, selon l'ONU, alors que la situation humanitaire continue de se dégrader.
Nous n'avons pas assez de ressources, en fait, des ressources financières pour apporter tout l'appui. Il y a des défis que nous pouvons considérer comme la prise en charge des malades, pour la continuité des soins, mais aussi l'identification, la recherche et la récupération des malades, surtout infectieux, comme ceux qui étaient atteints d'Mpox, de rougeole ou de choléra, qui se sont retrouvés dans la communauté. Donc la recherche de ces cas, c'est aussi un défi en ce moment ici.
De son côté, Pretoria indique ce mardi que des soldats sud-africains gravement blessés ont été évacués de Goma, où 14 de ses militaires ont été tués depuis le début de l'année dans l'avancée du M23 et de troupes du Rwanda.
Au Togo, le hacking éthique, encore appelé le test d'intrusion légale, émerge comme une solution indispensable pour contrer la cybercriminalité. Contrairement aux cybercriminels, cette catégorie de hackers utilise leurs compétences pour détecter les failles de sécurité et protéger les systèmes informatiques. On les compte encore sur le bout des doigts, mais leur rôle est déterminant pour garantir la pérennité et la réputation des entreprises à long terme. Reportage de notre correspondante Amène Assignon à Lomé.
Hacker au parcours atypique, Boaz Kodjo est un autodidacte qui s'est pris de passion pour les technologies. Il est trop technicien à la base, il s'est reconverti et porte aujourd'hui la casquette de spécialiste en sécurité des applications et testeur d'intrusion ou hacker éthique. Son rôle est de tester les systèmes informatiques afin de déceler les éventuelles failles sécuritaires avant que des criminels ne les exploitent et ensuite faire des recommandations. Pour nous montrer de quoi il s'agit, Boaz a tenté d'infiltrer un système informatique. Ce dernier a révélé des failles sécuritaires vulnérables avec des informations sensibles mises à nu que des cybercriminels peuvent facilement exploiter à des fins de vol d'identité.
Tout le serveur est à ma merci, je peux uploader des fichiers également dessus.
Contrairement aux hackers malveillants, les hackers éthiques agissent avec l'autorisation des entreprises. Ils utilisent les mêmes techniques que les cybercriminels, mais dans un cadre légal.
Actuellement, bon, c'est beaucoup plus les attaques par ransomware qui sont en train de monter en flèche depuis des années. Et avec l'avènement de l'IA, les attaques par phishing.
Au Togo, l'usage de l'Internet et de la digitalisation des entreprises connaît une croissance rapide. Toutefois, cette transition vers le numérique s'accompagne de nouveaux risques. L'augmentation des transactions en ligne, la gestion des informations sensibles, l'usage massif des services cloud rendent les entreprises vulnérables aux cyberattaques.
Il ne suffit pas d'utiliser les données des gens, mais il faut forcément les protéger. Et les risques qu'ils peuvent encourir quand vous êtes face à une violation, c'est qu'il y a des des risques financiers qui vont intervenir, il y a des risques réputationnels qui vont intervenir et il y a des risques juridiques aussi aujourd'hui, tant que vous êtes sur un territoire qui est assez réglementé.
Conscient des enjeux liés à la cybersécurité, le gouvernement togolais a mis en place un cadre réglementaire et un certain nombre de dispositifs pour protéger les infrastructures essentielles. En l'occurrence, l'Agence nationale de la cybersécurité, le Centre national de gestion des incidents, l'organe opérationnel CDA Cyber Défense Africa. Ce dernier promeut entre autres la formation des jeunes aux nouvelles compétences comme le hacking éthique, une compétence peu répandue.
On parle de la digitalisation, donc il y a plusieurs produits, il y a plusieurs services qui se digitalisent. Donc il faut qu'il y ait des compétences pour pouvoir tester la robustesse de ces différents équipements ou infrastructures informatiques. Et de l'autre côté également, ça permet d'être prêt au nouveau challenge de l'avenir. Aujourd'hui, vous savez, on parle de l'IA.
Bien qu'encore sous-exploité au Togo, le hacking éthique intervient comme une pratique efficace pour anticiper les menaces et renforcer la sécurité des systèmes d'information. Un impératif pour les entreprises qui minimisent la portée de la cybersécurité. Aména Signon pour VOA Afrique, Lomé.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Le pape François, 88 ans, hospitalisé dans un état critique avec une double pneumonie, a signé un décret de canonisation. Le Vatican assure ce matin que le pape s'est bien reposé toute la nuit au 12e jour de son hospitalisation après avoir fait état hier d'une légère amélioration. Des nouvelles rassurantes alors que l'état de santé du pontife argentin suscite l'inquiétude à travers le monde. Des prières sont organisées partout pour son rétablissement. Yacouba Ouedraogo fait le point.
Devant l'hôpital de Gemelli à Rome, où le pape François est hospitalisé avec une double pneumonie, des membres de la communauté vietnamienne prient pour lui. Sur la place Saint-Pierre, des centaines d'autres personnes participent à une prière pour la santé du pape François, ainsi que pour les malades, dirigée par le secrétaire d'État et numéro 2 du Vatican, le cardinal italien Pietro Parolin.
Nous le confions à la puissante intercession de la très sainte Vierge Marie que nous invoquons spécialement sous le titre de Marie, santé des malades. Qu'elle, notre mère attentive, le soutienne en ce moment de maladie et d'épreuve et l'aide à recouvrer rapidement la santé.
À des milliers de kilomètres du Vatican, des centaines d'Argentins ont assisté lundi à une messe à ciel ouvert à Buenos Aires, dédiée à leur compatriote, le pape François. Les fidèles se sont rassemblés sur la place de la capitale où, lorsqu'il était archevêque, le pape François présidait les célébrations en dénonçant inégalité et injustice.
C'est son symbole. C'est ici, sur la place de la Constitution, qu'il a toujours célébré la messe. Et ici, il y a plus de gens qui vivent dans la rue et c'est ici qu'il a toujours célébré la messe. Je pense que c'est l'endroit idéal pour célébrer une messe en son honneur et pour prier pour sa santé.
Brandissant des drapeaux argentins et des pancartes souhaitant un prompt rétablissement à Jorge Bergoglio, ses fidèles argentins ont prié, participé à l'Eucharistie et scandé « Viva el Papa Francisco, vive le Papa François » sous la direction de l'archevêque de Buenos Aires, José Ignacio García Cuerva. En Afrique, des prières se multiplient pour la guérison du Pape François, comme ici au Kenya. Les fidèles ont assisté à un service spécial à la basilique de la Sainte Famille de Nairobi, où ils ont prié pour le bien-être du souverain pontife.
Maintenant que le pape est malade et avec toutes les nouvelles que nous recevons sur sa santé, nous remercions Dieu qu'au moins, malgré tout cela, il soit dans des cœurs sûrs, qu'il soit à l'hôpital et surtout qu'il soit dans les cœurs sûrs de Dieu. Ma prière est qu'il se rétablisse. Ayant été berger pendant toutes ces années, il a beaucoup à nous apporter.
Le pape François avait été initialement hospitalisé le 14 février pour une bronchite, mais celle-ci a évolué en pneumonie. Le Vatican a annoncé qu'il a reçu lundi la visite de son secrétaire d'État, le cardinal italien Pietro Parolin, et de Mgr Edgar Pinapara, respectivement numéro 2 et numéro 3 du Saint-Siège. Au cours de cette visite, la première depuis son admission à l'hôpital, le pape a autorisé la canonisation de deux laïcs du Venezuela et d'Italie, et convoquer une assemblée des cardinaux dont la date n'a pas été précisée.
Washington Forum cette semaine, les discussions entre l'Europe et les États-Unis pour mettre fin à la guerre en Ukraine à l'occasion du 3e anniversaire de l'invasion. Le président Donald Trump a exprimé l'espoir que la guerre touche à sa fin lors de sa rencontre lundi avec le président français Emmanuel Macron. Parallèlement, Washington espère un accord qui lui donnerait l'accès aux minerais ukrainiens en échange d'une protection. Que vous évoque la divergence entre les approches européennes et américaines concernant l'issue du conflit? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Alessandrine Follognon et ses invités sur VOA Afrique et voaafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de la rédaction et la production. Au micro, vous étiez avec Rosine Mounezelo, à la mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.